Bonjour, vous êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel pour l'émission Renaissance, la Renaissance ou les Renaissances avec Philippe Frétinier. Nous avons beaucoup parlé, enfin nous avons beaucoup écouté Philippe lors de la dernière émission sur Alberti, Alberti à la fois témoin de son temps, grand intellectuel, qui notamment travaillait sur l'harmonie musicale, où vous nous avez expliqué qu'il avait un peu structuré l'harmonie, les tierces, les quintes, etc. Enfin, tout cet appareil important pour la composition, évidemment. Mais Alberti n'est pas le seul grand homme de ce moment-là.
Non, je dois parler de Brunelleschi, dont j'aurais pu parler en premier, parce que finalement Alberti est quelque part l'élève de Brunelleschi, mais je suis allé directement à Alberti, j'y reviendrai peut-être après Brunelleschi, parce que c'est vraiment l'exemple, oui, vous avez parlé d'intellectuel, c'est vraiment un exemple très parlant de quelqu'un qui est d'abord un intellectuel, de façon très poussée, hein, puisqu'il a, il a écrit une pièce en latin et un traducteur contemporain en langue vulgaire a imaginé que c'était vraiment un auteur latin qu'il avait écrit. Donc une connaissance de l'Antiquité, quelqu'un qui réfléchit, qui théorise. Et donc je voulais mettre ça en exergue parce que ça, c'est vraiment une des dimensions importante de la Renaissance. C'est vraiment à la Renaissance que commence la théorie de l'art, véritablement. Vous vous souvenez que j'ai beaucoup parlé de théorie de l'art à l'époque baroque, mais on peut vraiment dire que la théorie de l'art elle commence véritablement au cours du XVe siècle.
Oui, d'ailleurs, vous nous avez souvent dit qu'il n'y a pas non, il n'y a pas que des ruptures dans l'histoire de l'art, mais il y a aussi beaucoup de continuité. Et c'est pour ça que vous remettez d'ailleurs en cause les périodes dites
absolument
de Renaissance et du Baroque. Donc voilà, ça va, je suppose, exactement dans ce sens.
Et d'ailleurs, on va le voir avec Brunelleschi. Et il est une personnalité majeure. Il va acquérir une autorité comparable à celle de Vitruve, hein, ce qui n'est pas rien. Personnalité majeure parce qu'il a écrit trois traités, hein, de Reedificatori, de Pittura et de Statua. Donc un traité sur l'architecture, un traité sur la peinture et un traité sur la sculpture. Et donc, c'est pour ça que je suis allé directement à Brunelleschi en guise d'introduction à ce panorama. Mais il me faut quand même revenir à Brunelleschi parce que c'est d'abord, chronologiquement, il est avant Alberti. Et puis surtout, comme je l'ai dit, c'est le maître d'Alberti. Alors, Brunelleschi, je vais donner ses dates, hein, pour 1377-1446, il est né à Florence, il est mort à Rome. Alors, il est architecte, peintre, sculpteur, orfèvre, et l'orfèvrerie est vraiment considérée presque comme la reine des arts à l'époque. Il n'y a qu'à penser à Cellini avec la fameuse Salière offerte par François Ier à l'empereur d'Autriche. C'est pour ça qu'elle est à Vienne, d'ailleurs, cette Salière. Et d'ailleurs, tous vont plus ou moins tâter de l'orfèvrerie. Vinci apprend son métier dans l'atelier de Verrocchio, qui est peintre, sculpteur, orfèvre. Et c'est intéressant parce que je vais venir au rapport avec l'Antiquité. Mais l'orfèvrerie, si vous vous souvenez bien, j'ai parlé de Pisanello, et parlé justement de l'importance aussi des monnaies, hein, l'influence des monnaies romaines dans la conception non seulement de l'orfèvrerie, mais aussi de la sculpture. Donc Brunelleschi est celui-là. Il se fait connaître surtout parce qu'il construit le dôme de la cathédrale de Florence. Hein. Alors il faut dire que Santa Maria de Fiori a une particularité, c'est que on construit donc la nef et un projet de façade qui ne sera pas finalement fait, mais réalisé, il va être réalisé beaucoup plus tard. Et puis avec un transept, c'est une église en croix latine, mais surtout à la croisée des transepts, il y a un énorme espace dont il est prévu qu'il soit couvert par une coupole, ce qui est encore, on parlait de continuité, discontinuité, ce qui est l'idée gothique, hein, d'installer une coupole, sauf que l'espace à couvrir représente pour la coupole un diamètre de 41 mètres.
Alors c'est ce pas qui est énorme pour l'époque.
C'est gigantesque pour l'époque. Ce n'est pas la première fois, parce qu'il y a un précédent qui va évidemment être un phare pour les hommes de la Renaissance, puisqu'ils le connaissent. C'est un édifice qui est dans son état d'origine, on peut dire. C'est un des rares édifices romains complets. C'est le Panthéon à Rome.
Bien sûr.
Alors, le Panthéon à Rome, ça fait, c'est même encore plus grand. Ça fait 43 mètres et quelques, 43 mètres 73, si on veut être précis, je crois, mais peu importe. Ça fait, donc, c'est encore plus grand. Et ce qui est intéressant dans l'édification du Panthéon à Rome, c'est que l'ossature de la coupole est constituée par une série d'arcs de décharge. Donc il y a tout un système technique pour faire que la coupole tienne.
Oui, parce que sinon on se demande comment ces assemblages peuvent tenir, effectivement. Oui.
Et puis, donc, ce sont des séries d'arcs de décharge qui sont décalés au fur et à mesure que le diamètre de la coupole rétrécit. Et puis, surtout, les Romains qui avaient inventé 2000 ans avant le béton, un béton de ciment sans ferraillage comme ce qu'on connaît aujourd'hui, un béton de chaux en fait d'ailleurs, ils utilisent des matériaux qui viennent de pierres volcaniques. Et ça leur permet d'alléger la charge des matériaux au fur et à mesure qu'ils montent la coupole. C'est-à-dire que c'est de plus en plus léger, ce qui permet de monter assez haut. Et ça, c'est quand même une idée qui va justement intéresser Brunelleschi, puisque c'est un vrai défi de construire une coupole aussi grande. Il faut donc qu'elle ne soit pas trop lourde et qu'elle ait une structure, je dirais, quasiment autoportante. Hein, pour pouvoir... voilà, ça, c'est vraiment des idées que les Romains connaissaient déjà et que Brunelleschi va mettre en œuvre d'une façon absolument extraordinaire, à tel point que, bien qu'on sache exactement comment ça soit fait, aujourd'hui, on ne sait pas encore exactement ce qui a présidé dans la tête de Brunelleschi à la conception de cette coupole. Première chose, donc, il a décidé d'utiliser des échafaudages volants. Ça vient de l'époque gothique. Hein. Les cathédrales ont été construites avec des échafaudages volants. On laisse deux trous de réserve dans le mur qu'on est en train de construire. On monte quelques lits de pierre. Et puis, dans les deux trous, en dessous de ces quelques lits de pierre qu'on vient de mettre, on glisse des morceaux de poutre. On lance des planches et puis ce qu'on fait dans le bâtiment aujourd'hui.
Oui, hein. Ce qui permet de ne pas avoir à reposer nécessairement au sol pour les échafaudages, évidemment.
Et oui, et puis c'est surtout que ça permet d'économiser le bois qui était une denrée rare à l'époque médiévale, plus rare qu'aujourd'hui et plus coûteuse par conséquent. Et donc c'est un système extrêmement ingénieux que Brunelleschi va reprendre. Puisque on sait que cette coupole a été érigée sans coffrage. Alors que le Panthéon, on pense qu'il y a eu un système de coffrage, donc un échafaudage conséquent en bois avec des arcs pour supporter la coupole. Et Brunelleschi va faire l'économie de tout ça. Alors, c'est intéressant parce que pourquoi je suis passé à Alberti, je l'ai précisé, parce que c'est le premier grand théoricien. Mais ça n'est pas mineur pour autant, même si j'en parle dans un second temps. Brunelleschi, lui, c'est vraiment le technicien, l'ingénieur. Parce que ce qui va caractériser l'architecture, puisque pour l'instant on parle d'architecture, c'est vraiment un art d'ingénieur.
C'est-à-dire que l'art ne peut pas se passer de techniques extrêmement élaborées, en fait.
Voilà. Parce que l'époque gothique, ça n'est pas un art d'ingénieur, c'est un art d'empiriste. C'est-à-dire que le système des voûtes et de la retombée des poussées des voûtes, c'est par l'expérience qu'on apprend que la meilleure preuve qu'on la maîtrise pas vraiment. Il y a une expertise, si de mémoire, ma mémoire est bonne, qui a lieu concernant, puisque nos auditeurs sont pour certains chartrains, concernant la cathédrale de Chartres en 1280, je crois, malgré tout le système de contreforts sophistiqué spécialement à Chartres, qui va servir après, les voûtes exercent une telle poussée que la voûte a tendance à s'affaisser.
Et les murs à s'écarter.
Les murs à s'écarter. Mmh. Et d'ailleurs, on rajoute un petit arc-boutant sur le haut des contreforts qui servent à porter les arcs-boutants, qui était la nef, pour rajouter parce que ça a tendance à s'écarter. D'ailleurs, il y a eu la même chose à Paris, parce que les merveilleux arcs-boutants à double volet qui engendrent le double tour du chœur, c'est pareil, ça a été rajouté. C'est très beau, mais c'est rajouté. On a même ceinturé avec une grande ceinture de fer, juste sous les moulures, sous la toiture, le chœur pour le serrer avec un tyran qui en tient tout le tour du cœur. Ceci pour dire que donc, c'est vraiment une nouveauté de penser en termes de structure et en termes d'ingénieur.
Oui, c'est-à-dire que là, d'emblée, on conçoit, on pense la chose, alors que pour ce qui est de l'architecture gothique, on corrige en fait les poids un
c'est
peu
ça.
Trop importants.
Oui, c'est voilà. Le propre même de l'empirisme. Hein. En 1367, les chantiers du Dôme de Florence, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le maître d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, insiste pour retenir le projet d'une coupole sur cet espace qui est énorme. Et en 1413, on élève dans cette perspective le tambour, hein, c'est-à-dire la partie juste en dessous de la coupole. On a d'ailleurs le modèle qui apparaît dans une fresque de la chapelle des Espagnols de Santa Maria Novella. Et donc, pour ce faire, Brunelleschi va non seulement penser en termes d'ingénieur au sens moderne du terme, mais il va élaborer les outils pour la construction.
Avant de continuer sur ces aspects techniques et artistiques à la fois, vous allez nous faire écouter une pièce musicale, comme d'habitude, à la moitié de cette émission.
Alors, j'ai choisi quelque chose d'un petit peu tardif par rapport à l'époque dont on est en train de parler, puisque c'est un compositeur qui s'appelle Ascanio Maione, un compositeur italien, et qui a vécu de 1565 à 1627. Mais enfin, on est encore vraiment dans la Renaissance. Il a écrit des livres de pièces d'orgue et de clavecin. Nous allons donc écouter une toccata prima jouée au clavecin.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Grand Ciel, l'émission Renaissance avec ou sans S, avec Philippe Frétinier. Philippe, vous nous disiez juste avant cette pause musicale, donc à quel point l'alliance des arts et de techniques très avancées, à propos du Duomo à Florence, avait pu permettre une construction anticipée et non plus comme à l'époque gothique, une construction qui était corrigée au fur et à mesure des contraintes qu'on pouvait constater.
Voilà. Par l'ampleur, la taille, les dimensions, et puis finalement la fiabilité, C'est un exemple pratiquement sans équivalent, sauf à l'époque moderne.
Avec d'autres types de matériaux aujourd'hui, voilà, c'est beaucoup plus facile, évidemment.
Moderne, parce qu'en termes d'histoire, l'époque moderne commence à la Renaissance, mais là je parle de l'époque contemporaine, Donc, il y a un concours d'organiser en 1418. Brunelleschi participe au concours. Alors en plus, il y a une part de revanche un petit peu, parce que devant l'église de Florence, comme souvent en Italie, le baptistère est séparé, il est à l'extérieur. Par exemple, si vous allez à Fréjus ou à Poitiers, vous trouvez les baptistères extérieurs. Il fallait donc lui fabriquer des portes pour ce baptistère. Donc là aussi, il y a eu une sorte de concours. Et Brunelleschi a concouru, il n'a pas été retenu, c'est Ghiberti qui a été retenu. Ghiberti père et fils, ils se sont d'ailleurs représentés dans ces magnifiques panneaux de bronze qui constituent les portes avec un encadrement. Et l'ironie du sort, c'est que, comme aujourd'hui dans certains concours d'architectes, Brunelleschi s'associe à Ghiberti pour présenter son projet. Mais à la différence des autres, parce qu'évidemment tout le monde est conscient de l'enjeu, des dimensions du dôme et donc des problèmes que ça va poser, lui refuse de dire comment il va faire. C'est incroyable, c'est quand même très audacieux parce qu'il n'est pas encore si connu que ça. Il a perdu face à Ghiberti et il refuse de dire comment il va faire. À tel point qu'aujourd'hui encore, on ne comprend pas bien comment l'ossature a été construite sans coffrage, sans échafaudage, et on ne sait pas très très bien.
C'est assez hallucinant. Est-ce que ça veut dire que Brunelleschi, lorsqu'il a refusé de dire quel procédé il a utilisé, est-ce que c'était simplement parce qu'il risquait de ne pas être considéré comme crédible, peut-être ?
On ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'il a conçu était impensable pour l'époque.
Oui.
Je vais vous répondre comme ça.
Oui.
Hein ? Alors en fait, c'est un système de briques de terre cuite construite en épi. Il y a donc des arcs qui donnent la forme de la coupole. Et puis, il y a une série d'anneaux, toujours avec ces briques de terre cuite, qui ceinturent les arcs. Enfin, ils ne ceinturent pas, c'est entre chaque arc. Mais ça fait tout un cercle. Ça prend le cercle de la coupole, en rétrécissant évidemment au fur et à mesure. Et donc, c'est une structure autoportante. C'est-à-dire que chaque tuile que vous mettez, chaque brique que vous mettez, vient consolider ce que vous avez fait avant. Mais c'est tellement sophistiqué, avec une apparente simplicité, que de nombreux architectes aujourd'hui s'interrogent encore sur le pourquoi du comment de tout ça. Il y a un exemple célèbre, c'est avec des historiens et un architecte de l'art, historien de l'art et architecte de Florence, qui, avec des maçons, ils ont construit au 10e, c'est déjà énorme, hein, c'est 4 mètres quand même, ils ont essayé de reconstruire ce système avec des briques de terre cuite et ce système en arête de poisson pour comprendre comment il avait fait. Et malgré tout, on n'a pas vraiment encore compris, surtout vu les dimensions. Parce que,
oui, c'est ça, parce que 4 mètres et 40 mètres, c'est pas tout à fait la même chose.
Il y a des problèmes de masse considérables.
C'est ça, de poids, de contraintes.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est vraiment Alberti, c'est le théoricien, l'artiste, l'architecte. Brunelleschi, c'est l'architecte aussi. Mais c'est le praticien, et c'est surtout l'ingénieur, parce qu'il va inventer tous les outils, les grues, enfin tout ce qu'il faut pour construire l'édifice. C'est-à-dire qu'il invente vraiment les outils techniques qui n'existent pas à ce moment-là pour pouvoir construire le dôme. Je conseille d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a un excellent livre qui est paru dans la collection Poinceuil, « Les ingénieurs de la Renaissance » de Bertrand Gille, parce que ça explique bien cette émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui, en termes un peu barbares, l'ingénierie. Ça n'existe pas avant. Ça existe un petit peu du temps des Romains, mais sans qu'on en ait la moindre trace, parce que le seul traité important d'architecture des Romains, c'est Vitruve, qui parle beaucoup surtout de l'utilisation des ordres, tout ça. Mais on n'a pas des textes expliquant comment la coupole du Panthéon a été construite. Hein. On peut parler d'un art d'ingénieur avec les Romains, parce que c'est pensé dans ces termes-là, d'une certaine façon, mais ça n'est pas formalisé.
Alors, puisque vous releviez tout à l'heure, c'est que la différence entre le dôme du Panthéon et le dôme de Florence, c'est que le dôme du Panthéon a été construit certainement sur une structure en bois au départ, c'est-à-dire qu'il soutenait l'ensemble.
Oui, on ne le sait évidemment pas, mais il y a beaucoup d'éléments qui portent à le croire, ce qui veut dire quand même une construction gigantesque en bois au préalable, donc extrêmement longue et coûteuse à réaliser. C'est ça que Brunelleschi veut éviter aussi. Il prend un parti totalement nouveau, c'est vraiment lui qui invente ça. Il est parti avec son secret, il n'a jamais voulu dire comment il avait fait. On n'a pas les croquis clés qui permettent de comprendre. Il a très certainement fait des maquettes, des essais de structure pour voir comment il allait assembler ce système extrêmement ingénieux. Ça, c'est vraiment un tournant dans l'histoire de l'architecture et puis même dans l'histoire des techniques en Occident, parce qu'on va commencer à raisonner vraiment en termes d'ingénieur. Avec Alberti, il y a aussi l'importance des mathématiques, parce qu'Alberti était par ailleurs mathématicien. Et donc, on va définir des principes assez rigoureux qui vont conduire, j'en ai parlé à propos du baroque, avec l'émergence de la science moderne, avec Galilée, qui va calculer les trajectoires de balistique, avec des systèmes d'abscisses d'ordonnées.
Mais là, on est bien plus tard avec Galilée.
On est un siècle plus tard.
Oui, quand même.
Mais avec Alberti, on a déjà les prémices de ça.
C'est-à-dire que la conception technique qui préfigure...
Un début de mathématisation.
Voilà, qui préfigure la scientifisation, finalement, de ces techniques.
C'est ce qui montre bien que quand on raconte l'histoire avec des tiroirs, on passe par pertes et profits, tout l'apport de ce qui s'est passé avant, même s'il y a une rupture ou une invention nouvelle qui n'a pas de précédent, c'est le cas du dôme de Brunelleschi, ça ne doit pas tout complètement à celui qui est en train de créer. Il y a un terreau. D'ailleurs, dans le cas de Brunelleschi, ça se voit très très bien, parce que il va s'inspirer, donc il va construire d'autres édifices, notamment à Florence, entre autres San Spirito et San Lorenzo, qui sont des édifices majeurs de Florence. Mais surtout, il va construire sur la place Santa Annunziata l'hôpital des Innocents. Et que ce soit dans les deux églises que je viens de citer, ou dans la chapelle des Pazzi, qui est juste à côté de Santa Croce, qui pour moi est une merveille absolue. Lesquels Pazzi étaient les rivaux des Médicis, et c'est eux qui ont organisé la fameuse conjuration des Pazzi sous le dôme de Florence, d'ailleurs, où ils ont assassiné en plein office de Pâques un Médicis. Ça, c'est ce qui, moi, ne cesse de me fasciner. C'est pas propre à la Renaissance, parce que ça va perdurer après, mais c'est cette époque capable d'un grand raffinement, puis en même temps d'une barbarie pas possible à côté, quoi.
Non, écoutez, on va rester sur ce constat ambigu, ou en tout cas contradictoire de l'époque pour cette émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Philippe Rétigné. Je suppose que nous allons continuer à parler de Brunelleschi lors de la prochaine émission que nous enregistrerons très très bientôt. Merci Philippe, à bientôt, au revoir. Merci.
Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres.